France Inter.
France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, la France, tu l'aimes mais tu la quittes. Titre du livre publié au Seuil par trois chercheurs de l'Université de Lille, Olivier Esteves, Alice Picard et Julien Talpin, se sont intéressés aux raisons qui poussent des Français musulmans à quitter leur pays pour aller s'installer à l'étranger. Enquête réalisée auprès d'un millier de personnes parties vivre à Londres, Bruxelles, Montréal, Dubaï, Casablanca, malgré leurs diplômes. Et cela alors qu'ils sont nés et ont grandi en France, lassés qu'on les renvoie sans cesse à leurs origines à partir de leur nom, prénom, apparence, religion. Alors ce soir, on va revenir sur ces discriminations régulièrement documentées par ailleurs, que ce soit par des associations, la Défenseure des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Il y a même eu récemment une tentative pour légiférer sur le sujet. Le député Renaissance Marc Ferracci a voulu faire adopter un texte pour généraliser les tests dans le monde du travail. Texte voté à l'Assemblée, mais bloqué au Sénat. Jusqu'à 20h, dans ce téléphone sonne, on va donc s'arrêter sur les raisons qui poussent certains Français de culture ou de religion musulmane à quitter leur pays. Avec nous pour en parler, trois invités. Olivier Esteves, bonsoir.
Bonsoir à vous.
Vous êtes l'un des auteurs de ce livre, La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Vous êtes professeur à l'Université de Lille. Vous êtes spécialiste du monde anglophone. Saïd Amouche, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président fondateur de Mosaïque RH qui combat les inégalités d'accès à l'emploi. Vous êtes également membre du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Bonsoir docteur Fatma Bouvet de la Maisonneuve.
Bonsoir.
Vous étiez vous aussi au CESE à une époque. Vous êtes
absolument
psychiatre, écrivaine, autrice d'un essai intitulé Une arabe en France, une vie au-delà des préjugés aux éditions Odile Jacob. Je précise que votre dernier livre, un roman, a pour titre L'odeur d'un homme, c'est aux éditions Au Pont Neuf. On attend comme toujours vos témoignages à tous et vos questions.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, nous allons retrouver Abdel. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Abdel qui est au Luxembourg.
C'est ça.
Mais qui n'a pas toujours été au Luxembourg.
Non, non. Moi, je suis né en France.
Et que s'est-il passé, Abdel, pour que vous partiez vous installer? Parce que vous vivez là-bas?
Je vis au Luxembourg, effectivement.
Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous partiez au Luxembourg?
Bah écoutez, il s'est passé que je suis né en France, j'ai grandi en France, j'ai appris la langue française. Je suis moitié arabe, moitié noir. Donc physiquement, je suis plus noir, mais en même temps, je suis musulman. Donc on va dire qu'aujourd'hui, dans la France d'aujourd'hui, je cumule toutes les tares. J'ai vraiment tous les défauts. Et ça, je m'en suis rendu compte il y a bien longtemps, quand j'ai fini mes études, parce que j'ai obtenu un diplôme à master en école de commerce. Et avant même d'être diplômé, je me suis rendu compte que j'allais avoir beaucoup de mal dans le marché du travail. Voilà, donc j'ai décidé de partir avant même la fin de mes études.
Pourquoi vous dites que vous vous êtes rendu compte des difficultés? Que s'est-il passé? C'est des problèmes pour des stages? Pour
des stages déjà, j'étais toujours le dernier à en trouver, c'était très difficile. Je pense que c'était plus par rapport à ma couleur de peau, hein. Ça c'était la première chose. Et par la suite, quand j'ai commencé à postuler pour des jobs, pour des CDI, là pour le coup, j'obtenais quasiment pas de réponse. Donc c'est moi qui apparaît dans le livre d'Olivier Esteves. D'ailleurs, je le remercie d'avoir recueilli mon témoignage. C'est moi qui ai envoyé 70 CV à peu près en France et qui a obtenu à peu près zéro réponse. Et j'ai envoyé 3 CV au Luxembourg, 3 réponses immédiates pour 3 entretiens et puis 2 qui étaient positifs. Le troisième, j'ai même pas pris la peine de le passer. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, j'ai vu comment c'était chez moi en France et comment c'était à l'étranger et je me suis pas vraiment posé de questions et je suis parti, j'ai quitté la France avant même la fin de mes études.
Avec un petit pincement au cœur?
Un gros pincement, oui. Oui, c'est clair. Parce que j'ai quitté ce qui était à l'époque mon pays, j'ai quitté ma famille, mes amis, mes repères. Moi, pour le coup, j'ai pas grandi dans des HLM, dans des banlieues ou défavorisées. J'ai grandi dans la banlieue chic de Paris, dans les Hauts-de-Seine précisément. Donc, j'ai grandi avec des blancs, des Français. J'ai étudié avec eux plutôt, et j'ai fait du sport avec des Arabes et des musulmans. Et j'ai découvert en fait deux mondes entre guillemets en parallèle. Mais deux mondes qui se côtoyaient jamais. Donc il y avait le monde du sport, les Arabes, les Noirs, les Musulmans, et puis l'autre côté, les études, c'était essentiellement des Blancs. Donc je suis pas vraiment le plus à plaindre parce que moi j'ai pu partir et j'ai eu quand même des opportunités professionnelles. Bon, en dehors de France certes, mais j'ai eu des opportunités professionnelles.
Abdel, au-delà de votre témoignage, de ce que vous nous dites ce soir et qui est tellement parlant, est-ce que vous auriez un message à faire passer à ceux qui nous écoutent et qui parfois ne se rendent même pas compte de cette situation ou qui la nient pour certains ?
Ah, je suis désolé, mais le message que je vais avoir à passer ne sera pas positif. Hein. Je vais dire à tous mes co-religionnaires de quitter la France, il n'y a pas d'avenir pour eux là-bas. Je suis sincèrement désolé de le dire. Il n'y a pas d'avenir pour les musulmans, encore moins quand ils sont arabes. Alors là, surtout en ce moment, avec ce qui s'est passé avec l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier, il n'y a vraiment pas d'avenir. Et là, on le voit bien dans la presse, dans les paroles des hommes politiques français. Et pour moi, il n'y a pas d'avenir pour les musulmans. Donc le choix que j'ai fait il y a 17 ans, aujourd'hui, il a encore plus de validité. Et je le regrette encore moins.
Merci. Merci beaucoup, Abdel, pour ce témoignage. Merci à vous. Témoignage qu'on retrouve donc dans les colonnes de votre livre, Olivier Estévez. Est-ce qu'il est représentatif, j'ai envie de dire oui, de ces témoins que vous êtes, ces témoignages que vous avez recueillis?
Oui, tout à fait. Alors, d'abord, on est trois co-auteurs. Et, donc,
oui, dans mais le je livre, les ai donnés,
je crois. D'accord, non, mais très bien.
Alice Picard et Julien Talpin avec vous.
Alors, en fait, il y a beaucoup de choses dans ce que dit Abdel, hein, c'est très clair. Je retiens alors différentes choses qui sont effectivement emblématiques de notre bouquin. Ce qui m'intéresse en particulier dans ce que dit Abdel, c'est cette façon qu'il a de reconnaître que lui-même a de la chance, effectivement, contrairement à des personnes qu'il a pu côtoyer. Ça, c'est un truc qui revient assez souvent, dans le sens où beaucoup de gens nous ont dit, voilà, moi, il se trouve que j'ai bac plus 4, bac plus 5, ou que j'ai fait j'ai un master dans un domaine, effectivement, qui est normalement assez, qui débouche sur des emplois assez, assez lucratifs, mais il se trouve que je n'ai pas le bon nom de famille, ou que ma religion n'est pas la bonne, ou que, dans le cas d'Abdel, je n'ai pas la bonne couleur de peau. Et en fait, un certain nombre de médias se sont posé la question de savoir combien ces personnes étaient. Nous, on dit très clairement dans le livre que objectiver le nombre de ces personnes est impossible pour des raisons empiriques. Ouais. Voilà. Mais une question beaucoup plus intelligente, me semble-t-il, ce serait de se poser la question de savoir combien de personnes souhaiteraient éventuellement partir, mais ne le peuvent pas, parce qu'effectivement, elles n'ont pas les diplômes qu'il faut, ce genre de choses. Donc là, pour le coup, ce serait une question qui serait sans doute plus intéressante.
Docteur Fatma Bouvet de la Maison Neuve, quand vous entendez ce témoignage d'Abdel, on sent de l'amertume, on sent quoi ?
De la souffrance. Hein. Oui, oui. Je pense qu'il a vraiment condensé dans son intervention, que j'ai trouvée bouleversante, l'essentiel de ce qu'il faut dire à ceux qui décident aujourd'hui, aux responsables, à quel point des mots, à quel point certaines attitudes provoquent une souffrance incommensurable. Nous sommes un pays, c'est le pays de Montaigne, où nous réfléchissons, c'est un pays aux valeurs universalistes. Et aujourd'hui, on en parlait avant de rentrer dans le studio, tous les Français, pour ceux que j'ai dans mon cabinet, je suis médecin, je suis psychiatre, je travaille sur les émotions, la souffrance. Tous les Français, qu'ils soient franco-français, qu'ils soient d'origine diverse, sont en grande souffrance par rapport à ce qui est en train de nous diviser. Parce qu'en réalité, dans la vie de tous les jours, nous vivons très bien un ensemble. Et quand on dit les Français, c'est nous tous en fait. C'est-à-dire qu'en France, un Français sur trois a un lien direct avec l'immigration. Donc qu'est-ce qu'il ressent, Abdel ? Il ressent ce qu'on pourrait comparer à quelque chose que les gens vont comprendre individuellement, comme un trauma. Moi, depuis quelque temps, j'appelle ça le syndrome média-trauma, parce que ce sont les médias maintenant qui font mal. C'est-à-dire que ses parents, ses grands-parents sont venus en France pour construire cette France. On les a utilisés, on a utilisé leur énergie, leur travail, et confortablement installés dans des bâtiments que probablement ils ont construits, on dit d'eux « travail d'arabe », on dit d'eux qu'ils sont paresseux, alors qu'ils ont participé à la construction de la France. Donc en fait, on a utilisé leur énergie, on a utilisé leur dynamisme, leur vitalité, et puis maintenant, on a envie de les jeter, eux et leurs enfants. C'est un petit peu le syndrome de l'abus, vous voyez ? Et il n'y a pas de gratitude, en plus. Et ceux qui sont supposés réfléchir, parce qu'il y a une faillite de la pensée, quand même, dans notre pays, ceux qui sont censés réfléchir aujourd'hui et nous expliquer les choses, eh bien, ils oublient un angle mort énorme, qui est celui de cette histoire commune.
Alors, on va évidemment y revenir, mais je me tourne aussi vers vous, Saïd Amouche, président fondateur de Mosaïque RH. Vous entendiez ce que disait Abdel. 70 CV envoyés en France, malgré diplôme, master, 3 au Luxembourg, et encore, c'est d'arriver plus vite pour décrocher un emploi. Ça, c'est une réalité à laquelle vous êtes confronté très directement et contre laquelle vous luttez.
Absolument, et puis pour resituer ça, c'est-à-dire qu'il évoque une situation qui s'est passée il y a 17 ans. Je rappelle qu'il y a quelques années de ça, l'Institut Montaigne avait fait une étude pour analyser l'impact en fait du fait religieux dans le cadre d'un processus de recrutement. Et c'était une des premières études finalement en France, hein, parce que faut pas oublier que le mécanisme de la discrimination, c'est un mécanisme qui n'était pas du tout évoqué. C'était un non-sujet, c'était quelque chose qui n'était pas documenté scientifiquement. Et donc, sur ces dernières années, on progresse beaucoup, et je salue l'ouvrage de ces 3 scientifiques qui contribuent justement à faire évoluer la pensée. Et ce qu'on avait senti il y a quelques années, c'est qu'effectivement, il y avait des mécanismes de blocage qui se situaient, et qui, malheureusement, en fait, étaient constitués sur les mêmes typologies d'individus. Parce que d'abord, vous savez qu'un trouver du travail, c'est aussi la règle du réseau, hein, la cooptation, la capacité à être recommandé. En France, ça fonctionne comme ça. 7 entretiens sur 10 sont générés grâce à cette capacité justement à être coopté ou recommandé. Et quand on n'est pas en fait coopté, recommandé, eh bien on est livré à soi-même et on a un phénomène aggravant qui s'installe au regard évidemment de son prénom, sa couleur de peau, son genre, son âge. Et ces phénomènes vont être à gérer directement par l'individu. Et, et le fait de ne pas avoir de relais, d'exutoires, de clés de compréhension sur ce système, ça empire la situation et ça rend en fait des situations inexplicables. Et c'est aussi ça qui explique cette volonté de fuir, d'aller ailleurs et de trouver de l'oxygène. Parce que je peux vous dire que lorsqu'on croit en fait aux valeurs de la République, lorsqu'on s'inscrit dans une démarche en fait de méritocratie et qu'on se rend compte qu'au final, après avoir fait des efforts, décroché ses diplômes, travailler pour réussir, on se rend compte que, en fait, le marché du travail ne veut pas de vous. C'est horrible.
C'est violent.
C'est une très grosse souffrance. Alors, nous, on a décidé de créer un cabinet de recrutement non-profit spécialisé sur ces sujets-là, en prenant le sujet d'une manière très positive, en considérant que, en réalité, de quoi on parle ? En fait, d'individus qui ont cultivé un certain niveau de compétences et d'aptitudes professionnelles qui sont attendus sur le marché de l'emploi. Et c'est ça, aujourd'hui, le paradoxe. C'est-à-dire qu'on a, aujourd'hui, des talents qui fuient la France, alors que la France a des pénuries de main-d'œuvre, est en difficulté. Quand on écoute le ministère de l'Industrie, aujourd'hui, c'est 100 000 postes qualifiés qui sont aujourd'hui... et donc, c'est une catastrophe économique. Et si on converge cette analyse avec une démographie, en fait, qui est catastrophique, vous voyez, en fait, dans quel état on va laisser la France.
Et quel gâchis ça représente. Promis, je vous donne la parole à tous les 3. Mais on va repasser par le standard de France Inter. On va retrouver Samy. Bonsoir, Samy.
Bonsoir.
Vous êtes de retour en France, vous étiez parti à l'étranger, je crois voir sur ma petite fiche. Dites-nous tout, racontez-nous votre histoire.
Ouais, je suis revenu des États-Unis en juillet. J'étais resté un peu moins d'un an. Mais avant ça, j'étais aussi aux Pays-Bas, j'étais en Angleterre, j'ai pas mal voyagé et habité à l'étranger. Mais là, je suis à Paris et je ne sais pas encore pour combien de temps. Mais c'est vrai que j'ai encore la bougeotte.
Mais pourquoi vous êtes parti ? Parce qu'il y avait, des soucis de travail ici, non ?
Non, pas du tout. Alors moi, je suis un peu le contre-exemple de ce que j'ai entendu précédemment. Je suis pas parti pour des raisons pro. Enfin, j'avais une opportunité professionnelle, mais j'avais pas de problème en termes d'accès à l'emploi sur Paris ou en France. J'ai juste une opportunité professionnelle, mais ce qui s'est passé, moi, je me retrouve un peu dans ce que les gens autour de la table disent et ce que disait Abdel, c'est qu'il y a une ambiance totalement délétère en France pour les musulmans, pour les arabes, que ce soit dans la presse ou dans ce que les politiques font. Moi, l'affaire du voile en 2004, les récents trucs sur la baya, etc. Même si on n'est pas, moi je suis pas très pratiquant, mais je suis quand même musulman. Enfin, me retrouver dans un pays où c'est, il y a une focale comme ça, utilisée par les politiques pour leur basse manœuvre et que, enfin, c'est les musulmans pour ça, c'est totalement, enfin pour moi c'était irrespirable en fait.
Samy, vous qui avez beaucoup bourlingué, hein, puisque pour le coup vous nous dites que vous êtes passé par des tas de pays, vous voyez clairement la différence. Ça veut dire qu'ailleurs, dans d'autres pays, les réactions ne sont pas du tout les mêmes.
Bah, en fait, je sais pas si je suis fou ou pas, mais ça qu'à l'étranger, je par exemple ma religion, c'est pas un sujet quoi. Il y a pas de, on n'en parle pas quoi. Il y a pas aussi ce focus, autant ce focus là qu'en France quoi. Il n'y a pas de blagues racistes au travail, il n'y a pas de questions un peu bizarres sur ma religion au travail, etc. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus respirable.
Merci Samy pour ce témoignage, Olivier Esteves. Ça recoupe aussi les témoignages que vous avez pu recueillir ?
Oui, alors tout à fait. Il se trouve que dans les enquêtés qu'on interroge dans le livre, il y a une assez forte majorité de personnes qui sont pour qui la pratique de la religion ou l'identification à la religion est importante. Et ce qu'on voit très très bien en fait, parfois simplement quand on traverse la frontière pour aller à Bruxelles, hein, c'est d'autant plus éloquent pour des personnes qui elles-mêmes sont issues de villes comme Dunkerque ou comme Lille. On se rend compte qu'à Bruxelles, mais aussi bien évidemment à Londres, à Birmingham, à Montréal, à Toronto, la pratique de la religion sur le lieu de travail ne pose aucun problème. En fait, elle est complètement banale et on nous a rapporté des conversations du type oui, tu viens boire un café, ah ben non, j'ai pas le temps, je vais aller prier, ah bon, ok, d'accord. Enfin, l'acte de prière pour les personnes qui sont pratiquantes, et c'est pas toujours le cas, est de fait relativement banal. Et ce qui est important de comprendre, c'est que pour un certain nombre d'entreprises, de tout type d'entreprise, hein, grande, petite, voilà, banque, assurance, même usine, hein, dans l'industrie, il y a vraiment la compréhension que ça sert les entreprises que de mettre à disposition des lieux de prière, précisément parce que les personnes qui bossent pour ces boîtes vont avoir envie, passez-moi l'expression, de se défoncer pour des boîtes où effectivement elles peuvent trouver une sérénité religieuse.
Alors, je précise quand même que sur les raisons du départ, hein, si j'ai bien lu votre ouvrage, la première raison, celle qui est partagée par 71% des personnes interrogées, c'est pour moins subir le racisme et les discriminations. La question religieuse arrive en deuxième position, 64%, pour vivre ma religion sereinement. Et en troisième position, progresser professionnellement. Alors, je ne sais pas si tout le monde se retrouve dans ces raisons-là, mais en tout cas, en premier lieu, racisme et discrimination. Peut-être une réaction, docteur Fatma Bouvet, là-dessus.
Je reviens à ce que disait, je crois que c'était Abdel au départ, et effectivement, moi, mes patients me disent, c'est ma gueule qui ne leur revient pas, en fait. C'est une question de faciès, et d'ailleurs, de très nombreuses études ont été publiées et qui ont montré le délit de faciès, et les choses ne s'arrangent pas. Et c'est en ça, en fait, que j'étais bouleversée aussi d'entendre est-ce que je suis fou ou pas. C'est-à-dire qu'on est face à une sorte de déni, on est face à une sorte de délire en France, comme s'il n'y avait pas de problème de discrimination et comme si ce qu'on vous racontait et qui était faux, parce qu'il y a énormément de clichés, il y a énormément d'idées reçues qui sont diffusées dans les médias ou par certains dans une certaine catégorie d'intellectuels et qui relèvent véritablement de fausses informations et que on impose comme une réalité. Donc on est quasiment dans un monde délirant et quand on est face à un délire, ça nous rend fou en fait. Et la question effectivement du faciès est primordiale. Et je voudrais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au genre. Alors il a beaucoup été question de voile et j'ai lu votre livre, vous parlez du voile, mais moi j'aimerais vraiment insister et dire à quel point il est difficile d'être un homme arabe aujourd'hui en France. C'est extrêmement dur. Les employeurs ont l'impression, je dis bien l'impression parce qu'ils connaissent bien mal les femmes françaises d'origine maghrébine, elles ont l'impression qu'elles sont dociles, plus dociles que les hommes. Et je me souviens d'un de mes patients que j'ai mentionné dans mon livre « Une arabe en France », qui m'a dit un jour « Docteur, je sais ce que vous êtes, je sais d'où vous venez, mais si je devais employer un jour un homme arabe, je ne le ferais jamais aujourd'hui, parce qu'il a un potentiel de violence et parce que nous n'avons pas la même culture ».
Tout est dit. Saïd Amouche, combien de personnes vous avez aidé à trouver du travail et d'entreprises? Je crois que depuis une quinzaine d'années, 15 000 personnes environ.
Oui, on a passé le cap des 20 000 candidats qui ont signé un contrat dans des entreprises plutôt prestigieuses, puisqu'on a fait plutôt le choix d'aller frapper aux portes des boîtes qui semblaient être inaccessibles, notamment les grands groupes internationaux, et qui nous ont surpris, parce qu'en réalité, quand on installe des solutions pour proposer des alternatives, ça marche. On a un cabinet aujourd'hui qui salarie 80 personnes, mais on a aussi créé en fait des coalitions avec des collectifs d'autres associations, que le collectif de l'ascenseur par exemple, dans lequel on retrouve plus d'une vingtaine d'associations militantes et qui travaillent avec des entreprises pour pouvoir tester, pour pouvoir innover, pour pouvoir réparer, pour pouvoir accélérer le mentorat, pour pouvoir faire du recrutement inclusif. Et on se rend compte en réalité que l'opportunité, elle part quand même du secteur privé. Donc même si le secteur privé comme point de départ est en résistance par rapport à ces questions-là, on a quand même une nouvelle génération de managers, on a quand même une nouvelle génération en fait d'entreprises qui s'inscrivent dans des dynamiques de réussite auxquelles il faut les faire confiance et accélérer ces mouvements.
Alors, il y a des choses à faire.
Le téléphone sonne.
Voilà, je vous rappelle que nous sommes ce soir avec Olivier Estévez, un des auteurs de ce livre « La France, tu l'aimes, mais tu la quittes », avec Saïd Amouche, président fondateur de Mosaïque RH, et avec Dr Fatma Bouvet de la Maison d'œuvre, psychiatre et écrivaine. Nous allons partir à Belfort, retrouver Farida. Bonsoir Farida.
Bonsoir.
On vous écoute.
D'abord, je voulais vous remercier pour vos émissions de qualité.
Merci Farida.
Et du coup, j'ai une question, c'est est-ce que les médias ne contribuent pas à cette stigmatisation en évoquant des fois des faits divers commis par des jeunes où on dit qu'ils sont français, mais qu'on rajoute d'origine marocaine ou ivoirienne, comme vous voulez. Et alors que quand il s'agit des affaires judiciaires de M. Sarkozy, on ne rajoute pas d'origine hongroise. Et pour moi, quand on est français, point. Il n'y a pas besoin de rajouter autre chose.
Merci Farida pour cette question témoignage, Dr Fatma Bouvet.
Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez parfaitement raison. C'est ce que j'ai appelé le syndrome médiatrauma. C'est-à-dire que maintenant, on a peur d'écouter les informations. Et vous savez, c'est un petit peu comme le retour de la mémoire traumatique. C'est-à-dire qu'il y a des mots comme ça qui vous attrapent aux tripes, des mensonges qui vous attrapent aux tripes, et c'est un petit peu, ça vous renvoie à ce que vous aviez, à ce que vos parents ont vécu, vos grands-parents ont vécu, et ça touche en fait à des questions de légitimité qu'on ne vous a pas autorisé depuis que vous étiez petite. Les médias sont violents, certains médias évidemment sont violents et on les connaît tous, et c'est là où tout à l'heure je disais qu'il y avait une faillite de la pensée, parce que je pense que il est temps de mettre de l'ordre et il est temps de retourner à la raison. Là, on est en train de recevoir des coups. Moi-même, je suis arabe. On reçoit des coups tous les jours, en fait. Et ce sont des expressions de haine que nous sommes en train de recevoir, d'accueillir.
C'est-à-dire qu'une phrase prononcée à la radio, à la télé, vous atteint dans votre intimité.
Parfois, ça vous empêche de dormir. Il faut le savoir, en fait. On ne se rend pas compte de ce que ça suscite chez les individus. On ne se rend pas compte de ce que ça suscite chez les familles. Un jour, un papa, marié avec une femme d'origine asiatique, est venu en pleurs en me disant, après le débat du deuxième tour 2017 entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, en me disant, ma petite fille m'a dit, mais papa, alors, on va devoir partir de France, maman et nous. Vous imaginez, en fait, ce type de propos, ce sont des gens qui sont... sa femme est française, elle travaille, elle est enseignante, elle fait la France d'aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ces façons de diviser les Français? C'est une...
Alors, pour le coup, ce ne sont pas que les médias, ce sont aussi les politiques. C'est le discours public, Olivier Estévez. Hein.
Tout à fait. Alors, ce qu'on voit très très bien à travers notre enquête, c'est la façon dont nos enquêtés, donc quelle que soit la région du monde où ils se trouvent, vont pointer du doigt la responsabilité très importante de la stigmatisation par les médias et par les politiques. Alors, pour faire écho à ce que disait Fatma à l'instant, en fait, très clairement, chez des personnes qui auraient maintenant 43, 45 ans, l'effet de la petite blague hortefeu, alors je dis petite blague, bien évidemment, c'est
quand
un euphémisme.
Hein. Ça va, voilà, quand
tout
y
à
y
fait.
Plusieurs,
on a des personnes qui ont quitté la France à cause de ça, qui ont vécu ça comme un vrai affront personnel et qui ont quitté la France, effectivement, à cause de cette blague d'hortefeu qui a qui a eu un effet délétère absolument considérable. Mais c'est vraiment un exemple parmi d'autres. L'autre élément qui est important, c'est effectivement la façon dont un certain nombre de nos enquêtés vont dire « mais ces médias, ces politiques qui nous parlent tout le temps de la République, les valeurs de la République et tout, ces personnes nous disent mais c'est nous la République en fait. Nous on est passé par l'école de la République, nous on est passé souvent par des écoles publiques de la République, alors qu'en fait les élites médiatiques et puis politiques, hein, bon c'est ce que nous disent les plus conscientisés parmi nos enquêtés, ce ne sont pas des personnes qui sont passées par l'école de la République. Et qu'est-ce que ces personnes connaissent effectivement?
Et parfois elles sont passées aussi par ces écoles-là. Et puis surtout les gens ont des diplômes, hein, on est quand même dans un pays où le diplôme Saïd Amouche, c'est le Graal, normalement ça devrait suffire.
Oui, mais elle est là en fait, l'arnaque, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a vraiment un sentiment d'avoir construit une projection à travers la réussite par le travail, l'effort, et que derrière, la récompense, en fait, elle ne vous est pas accordée, elle est accordée à l'autre. Et donc ça crée en fait effectivement de la frustration profonde, et à cette frustration, il y a un discours public qui vient accentuer en fait le phénomène. Et donc ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est de d'abord s'appuyer sur des faits réels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on regarde, quand on passe un peu de temps au musée de l'histoire de l'immigration, on se rend compte que l'histoire qui nous est racontée à travers des personnages publics très forts, c'est pas la réalité. L'immigration a été, dans l'histoire de France, souvent une solution en fait en matière de développement économique, en matière de développement social. Et cette histoire, on la raconte pas assez. Et je pense que quand on a dit ça, c'est important aussi de se rendre compte que chacun peut trouver sa place en fonction de sa différence. Et la France, elle a été capable de trouver, en fait, un point d'équilibre dans lequel chacun pouvait se respecter et construire. Sauf qu'aujourd'hui, on est quand même dans des enjeux de pouvoir. Le pouvoir passe par la prise d'influence politique. Et donc, il faut raconter un récit qui est alternatif et qui ne correspond pas forcément à cette réalité. Donc, moi, ma grande frustration, c'est qu'en réalité, la France est beaucoup plus forte pour pouvoir surpasser, en fait, ces discours. Sauf que le discours ambiant aujourd'hui qui est porté, celui qui a aujourd'hui de l'audience, c'est pas la vérité. Et c'est un discours qui a pour vocation en fait de prendre le pouvoir, et il faut aujourd'hui avoir davantage de contre-discours, contre-arguments, parce que c'est ça en fait qui permettra le point d'équilibre.
Oui. On ne fait pas assez d'histoire, docteur Fatma Bouvet.
Je reviens sur ce que disait Olivier, c'est-à-dire que ils sont la République. Et moi, j'ai envie de dire, non, on ne fait pas assez d'histoire, on ne raconte pas pourquoi ces gens-là sont là. D'ailleurs, moi, j'ai pas mal de patients qui m'ont dit, j'ai été frustrée pendant mes cours d'histoire parce que j'ai jamais compris pourquoi je suis arrivée ici. Que ce soit des Maghrébins, des Subsahariens ou même des Asiatiques, on m'a jamais appris pourquoi je suis là. Et en plus, on ne veut plus de moi. Et ce sont des personnes qui ont effectivement des parents qui ont énormément investi dans ce trépied de la République, liberté, égalité, fraternité. Beaucoup y croient encore, malgré les discriminations. Et ce pourquoi je voulais intervenir, c'est que, en fait, évidemment, aujourd'hui, il y a énormément de problèmes en France. Les inégalités scolaires, les inégalités sociales, etc. Mais c'est tellement plus facile de trouver un bouc émissaire que de réfléchir à des questions très importantes. Et moi, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas quitter la France. Faut pas quitter la France.
Surtout pas.
Moi, j'accompagne des patients et je leur dis, mais c'est vous la France, en fait. Mais qui a travaillé dans les hôpitaux pendant le Covid? Qui a participé à sauver? Qui aujourd'hui s'occupe de nos personnes âgées? Qui s'occupe de nos petits? Mais ce sont beaucoup des personnes qui sont venues d'ailleurs. Mais la France c'est vous la France. Qu'est-ce que ça veut dire partir? C'est laisser la place à une poignée d'individus qui veulent nous diviser. Mais pas du tout. Rester, en fait.
Olivier Estévez.
Oui, juste très rapidement sur cette fuite des cerveaux qu'on investigue dans le livre, ce qu'il faut rappeler également, et ce qu'on n'a pas assez dit, je pense, ces derniers jours en étant interrogé dans différents médias, c'est la façon dont, en fait, ce brain drain là qui opère, c'est quand même souvent des secteurs en tension du marché du travail.
Brain drain, fuite de cerveau,
fuite
c'est
cerveaux,
ça
voilà, ouais. C'est ça, pardon. C'est l'idée qu'on a parlé à quand même beaucoup de personnes qui sont infirmières, qui sont sages-femmes, qui sont profs, ou qui sont ingénieurs informatiques. Et autant de secteurs, effectivement, du marché du travail qui, en France, essayent de recruter des personnes. Mais si, effectivement, pour toutes sortes de raisons, principalement liées à des enjeux de discrimination, des personnes musulmanes quittent le pays, effectivement, il y a de quoi s'interroger collectivement là-dessus, quoi.
Alors, promis, Saïd Amouche, je vais vous donner la parole, mais on va juste repasser par... on va aller dans le Limousin, tiens, faire un petit détour, retrouver Emmanuel. Bonsoir, Emmanuel.
Bonsoir.
On vous écoute, Emmanuel.
Oui, je vous appelle. Alors, je suis un peu contrarié par rapport à tout ce que j'ai entendu. Alors, moi, je ne crois pas du tout à tout ce qui a été raconté. Mais alors, pas du tout.
Vous ne croyez pas qu'il y a des gens qui partent ?
Pas du tout. Alors, moi, je pense qu'on a une stigmatisation des musulmans en France. Alors, avec le grand remplacement par l'extrême droite. Mais on a l'islamo-gauchisme par M. Mélenchon. Moi, par exemple, à titre personnel, je suis suivi par un médecin de haute volée qui est d'origine maghrébine, qui le revendique, qui est pratiquante, et qui me donne un traitement qui est assez rigolo parce que j'étais très surpris. C'est un traitement à la pancréatine de porc. Donc j'ai dit, mais comment vous faites si c'est un musulman ? Elle me dit, mais moi je suis médecin, je ne suis pas musulmane. Donc je dois le prescrire, puisqu'il n'y a que ce traitement qui existe. Donc je pense qu'il y a plein de jeunes et plein de gens qui arrivent, je pense qu'on essaye actuellement de stigmatiser toutes les religions, toutes les communautés en France pour faire de l'électoralisme. Et je pense qu'en fait, on pourrait très bien tous vivre ensemble sans problème. Et que la religion doit rester du domaine privé.
Merci.
Et jamais oui. Public. Voilà. Bon. Et il y a des gens, moi je ne crois pas, alors bien sûr qu'il y a des, on le sait, hein, c'est très compliqué d'avoir un appartement, si vous avez un nom à connotation, ça peut être compliqué et tout. Bien sûr, mais je ne crois pas à cette France-là.
Moi, mais oui, mais vous dites un peu une chose et son contraire, non, Emmanuel, là ?
Non, pas du tout. Je crois vraiment que la France, elle n'est pas raciste. Pas du tout.
Merci.
Je pense que c'est les hommes politiques qui nous la rendent raciste.
Bon, merci beaucoup, Emmanuel. Il y a beaucoup de choses hein, dans ce que vous venez de dire. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite réagir, docteur Fatma Bouvet.
Ah oui, moi, je ne pense pas que la France soit raciste. Pas du tout. Je pense qu'il y a des racistes en France, comme il existe des racistes dans d'autres pays. Mais ça n'est pas pour cela qu'on doit se taire et qu'on ne doit pas réagir au racisme qui existe en France.
Moi, je voudrais surtout comprendre pourquoi... On a ce problème en France, parce que on a parlé des questions économiques, le marché du travail, les discours populistes, ça existe dans d'autres pays d'Europe, par exemple. Pourquoi est-ce que en France, il y a ce sentiment-là? Est-ce qu'on a un problème particulier avec l'histoire, avec qu'est-ce qui s'est passé, Olivier Esteves?
L'histoire coloniale, effectivement, mais on pourrait dire donc à Fatma que la Grande-Bretagne, par exemple, que je connais plutôt bien, partage aussi une histoire post-coloniale assez douloureuse avec les ressortissants du sous-continent indien.
Elle est mieux enseignée, c'est ça
alors,
la raison.
C'est pas que une histoire d'enseignement de l'histoire justement, même si l'enseignement de l'histoire est effectivement central. Ce qu'on pointe à travers l'enquête, je pense, c'est la façon dont effectivement une certaine laïcité d'interdiction en France s'est profondément enracinée depuis presque 35 ans maintenant. Autrement dit, ce qu'on pointe vraiment, c'est le coût économique hein, d'une certaine laïcité d'interdiction qui en France, en tout cas, ne s'applique presque exclusivement à l'islam. Si vous regardez les archives numériques du journal Le Monde, le journal Le Monde étant une sorte de baromètre finalement de l'état du débat public, vous vous rendez compte que si vous tapez le terme laïcité, vous cherchez le terme laïcité avant 1989, notamment appliqué à l'islam, vous ne trouvez jamais de référence, sauf quelques articles qui vont parler de l'Égypte, de la Tunisie ou de la Turquie. À partir de 1989, il y a la première affaire du voile à Creil, et là effectivement, le nombre d'occurrences de l'islam liées à la laïcité augmente, mais de façon absolument stratosphérique. Donc là, effectivement, il y a quelque chose à, enfin, il y a un élément à interroger autour de ça.
Saïd Amouche.
Je crois qu'on a un grand problème sur l'état des lieux. C'est-à-dire qu'on est en incapacité de faire des bons diagnostics. Et donc, à partir du moment où le diagnostic n'est pas au rendez-vous, et bien derrière, on est dans le fantasme. Et aujourd'hui, il faut le dire. Hein, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, une des raisons pour laquelle la discrimination n'était pas mesurée, c'est qu'on n'avait pas les outils. On n'avait pas la pensée, on n'avait pas les militants. Moi, je salue la Maison des Potes quand ils ont décidé de faire ce testing on s'est rendu compte qu'il y avait plein de processus de recrutement qui discriminaient. Eh bien, c'est du factuel et ça a été condamné par la justice. Et donc ça, c'est une réalité. Si on continue à considérer qu'on ne peut pas mesurer les questions ethniques, les questions religieuses, et donc on ferme en fait la porte au sujet, il n'y aura pas de solution. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la CNIL, il faut savoir que le défenseur des droits ont donné des outils qui sont complètement en phase avec la loi et qui permettent en fait de faire des états des lieux et de se projeter. Donc les entreprises ont besoin de faire des baromètres, ont besoin les processus de recrutement dans la haute fonction publique, c'est un sujet. Aujourd'hui, pourquoi on recrute pas assez suffisamment de hauts fonctionnaires pourtant les gens sont formés. Et donc du coup, il faut tester, il faut à un moment donné analyser ces processus-là et se rendre compte qu'on a un énorme problème pour constater la réalité.
Un dernier appel qui nous vient de l'Isère. Bonsoir Benjamin.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Benjamin.
Alors en fait, moi je vous appelle, je suis un peu ému.
On va vous aider Benjamin, mais alors je vous dis juste un petit truc avant de commencer. Il est 19h56, il va falloir qu'on se dépêche. Alors si vous pouvez me dire ça, allez, on est entre nous, la raison pour laquelle vous appelez.
En fait, c'est juste pour vous dire que voilà, moi je suis l'enfant d'un couple franco-marocain et c'est quand j'ai entendu votre émission, ça m'a bouleversé et en fait l'émotion m'a submergé et je la maîtrise pas maintenant en fait. Mais c'est pour vous dire que pour des raisons un peu obscures, on m'a appelé Benjamin et non pas Abdelkader, Karim ou un autre prénom et en fait ça a changé ma vie parce que moi j'ai bien vécu depuis mon enfance. Ce regard de réaliser que cette personne est maghrébine. Et maintenant, je suis moins typé et j'ai les cheveux un peu moins longs et ça facilite ma vie. Et si je m'étais pas appelé Benjamin, c'est l'ironie de l'histoire parce qu'on peut pas dire qu'en ce moment, ce soit vraiment un prénom vraiment à la mode. Eh ben, ma vie aurait été différente et j'ai des tonnes d'anecdotes où je pouvais vous parler de plein de choses. Et voilà. Et à l'heure actuelle, maintenant, voilà, je suis chercheur en physique théorique. Je suis fier de mon travail, de ma famille. Je suis fier de vivre dans ce pays. Mais voilà, mais que ce pays et que la population ne réalise pas en fait la douleur et la détresse dans lesquelles peuvent être des adultes comme des enfants pour quelque chose de parfaitement arbitraire, c'est extrêmement déstabilisant. Voilà.
Eh ben merci mille fois pour ce témoignage, Benjamin. Je pense qu'effectivement tout est dit, docteur Fatma.
Mais oui, mais vous voyez, j'entends ça tous les jours en fait, et c'est pour ça que je dis que il y a une responsabilité énorme. De la part des personnes qui assènent sans cesse des mots de haine, des mots de division. Comme disait Martin Luther King, je pense qu'il faut vivre ensemble comme des frères plutôt que mourir comme des idiots. Enfin, une phrase de ce type. On n'a pas le choix que de vivre ensemble. Et de toute façon, on vit ensemble et il n'y a pas de différence. Le racisme, ça a été démontré, n'existe pas. Il n'y a pas de hiérarchie de race.
En tout cas, je retiens ce que vous disiez. Ne partez pas. Saïd Amouche, Mosaïque RH, vous dites la même chose après.
Absolument.
Tout.
Absolument.
Ce que vous faites à travers votre cabinet de recrutement.
Et honnêtement, tout est devant nous. À nous de construire les choses. Et je suis certain qu'on va réussir. Il faut juste s'écouter et se faire un peu confiance.
Et ben voilà, c'est noté. Je renvoie à au site hein, de Mosaïque RH.
Fondation.org.
Voilà, avec toutes les entreprises concernées, dont Radio France. Je crois qu'on peut le signaler. Olivier Estévez, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin, mais vous avez quoi, les 15 secondes, pas plus, pour nous dire le message fondamental.
Je vais juste citer un extrait de d'entretien très rapidement. Alors donc c'est Nordine qui a vécu un peu partout dans différents endroits du monde, qui nous dit: quand je suis parti au Canada, j'avais 21 ans et arriver dans un autre monde. C'était vraiment une libération intellectuelle. C'est la possibilité d'être vraiment soi-même et c'est des choses qu'on ne réalise pas. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais quand j'ai lu, je ne sais plus comment faire le parallèle, mais en tout cas, c'est comme quand j'ai perçu, c'est ce que j'ai perçu dans le livre d'Édouard Louis, quand il disait qu'il quittait le milieu ouvrier dans son livre pour vivre son homosexualité de façon plus transparente. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est-à-dire vivre à Montréal, vivre au Canada. Le fait d'être musulman pratiquant et de le dire, de dire à des gens blancs, je prie et je reviens, et que ça ne pose pas vraiment de problème.
Voilà, on trouve ça dans ce livre, La France, tu l'aimes, mais tu la quittes. Merci mille fois.